Bonsoir et bienvenue dans État d'esprit. Le dimanche soir n'est pas confortable. La semaine se profile avec son lot de « j'ai pas fait, j'aurais dû ». La rentrée n'est pas confortable avec son lot de « vais-je y arriver, j'aurais dû ». Ceux qui ont du travail en ont souvent trop. Ils se demandent comment ils vont faire pour vider la mer à la cuillère. Ils se demandent comment ils vont faire pour le garder, ce travail. Ceux qui n'en ont pas aimeraient tellement en avoir, mais comment faire, là encore ? Les jeunes sont trop jeunes, on cherche quelqu'un qui a de l'expérience. Et ben, les vieux sont trop vieux. Entre trop jeunes et trop vieux, il y a bien dû y avoir une année, un mois, une semaine où on était pile bien, non ? C'était quand ? Laisse tomber, c'est passé. Les femmes, on s'en méfie. Entre les règles douloureuses ou pire, les grossesses, elles vont nous lâcher. Quant aux hommes, ils n'ont pas besoin d'avoir quelque chose pour être souffrants. Non, je l'ai pas dit, non, je l'ai pas dit. C'est toi qui entends des trucs dans tes oreilles. J'ai pas dit que les hommes étaient anxieux. Et un peu anxieux. Je dois admettre que nous, les femmes, nous savons faire aussi. Et cerise empoisonnée sur ce gâteau d'inquiétude, ce soir, nous sommes le 11 septembre, funeste anniversaire. La grande affaire de la vie, c'est le sexe, disent les uns. C'est l'argent, disent les autres. C'est le pouvoir qui les procure. C'est l'amour, disent les sages. Et si c'était la peur qui bloque tout ça ? Il y a plusieurs façons de calmer cette peur. Certaines ont des effets secondaires désastreux et d'autres, des effets secondaires merveilleux. C'est cette dernière catégorie, ce soir, que nous allons évoquer, le yoga.
France Inter, État d'esprit, Noël Bréham.
Docteur Lionel Coudron, bonsoir.
Bonsoir.
D'abord, merci d'être venu. Vous êtes médecin, vous êtes entre autres spécialiste de la traumatologie du sport, vous êtes professeur de yoga, vous avez même été président de l'école des professeurs de yoga, et vous communiquez sur les applications médicales du yoga. Vous êtes directeur de l'Institut de yoga-thérapie, et j'ai sous les yeux deux de vos livres, « La yoga-thérapie », justement, et « Le yoga, bien vivre ses émotions ». Tous les deux sont édités chez Odile Jacob. La peur est une émotion ?
Fondamentale. Fondamentale, vous l'avez dit. La peur est probablement un des mécanismes, des blocages les plus importants, et elle fait partie des 5-6 émotions de base. On retrouve la colère, la joie, le dégoût, qui est une émotion à part entière, oui, et parfois dans certaines circonstances, on peut vraiment avoir une réaction de type nauséeuse, voire avoir une réaction qui nous fait vomir, même dans une douleur par exemple. Donc le dégoût est une émotion à part entière qui nous fait repousser la situation. Et enfin, la tristesse et la peur. Et alors la peur est l'émotion qui sous-tend l'anxiété, qui peut être bénéfique, mais qui peut être également invalidante. Car l'anxiété peut se transformer en anxiété pathologique et créer des souffrances extrêmement importantes. La peur est une des causes majeures de souffrance.
Nous parlons donc de la peur et du yoga, puisque c'est votre spécialité. Et on s'imagine, docteur Coudron, que le yoga, c'est quelque chose de lent, d'un peu barré, une espèce de résurgence hippie, patchouli, Doo River. Ou au contraire, on s'imagine que c'est une mode pour Desperate Housewives qui cherche le truc. Et si on sait qu'il y a un yoga plus profond, évidemment, on s'imagine alors que ça concerne que des gens très, 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 très élevés qui méditent toute la journée dans un temple indien. Et vous, vous dites que le yoga, c'est pour tout le monde.
Alors, je crois effectivement que là, ce qui s'est prouvé ces dernières décennies, en particulier ces 10 dernières années, c'est que le yoga concernait tout le monde. Et si encore il y a 50 ans, ça pouvait être plutôt pratiqué, je dirais, par des marginaux, les Beatles, quelques stars qui avaient
Steve
eu
Jobs,
cette connaissance. Hein. Voilà, ouais. Effectivement, aujourd'hui, c'est plus le cas. Je crois que aujourd'hui, justement, le yoga s'est acclimaté. Il a fait pousser ses propres racines dans nos pays. Et du coup, chacun peut se l'approprier à son niveau. Alors, il y a des yogas qui sont effectivement plus dynamiques, donc qui sont beaucoup plus, au contraire, lents. Et je crois qu'à travers cette diversité, chacun peut trouver ce qui lui convient.
Donc, le yoga n'est pas lent. Le yoga, c'est pas, entre guillemets, un truc de gonzesse.
Alors, le yoga peut être lent.
Oui.
Le yoga peut être rapide. Le yoga peut être un truc de gonzesse. Et le yoga peut être un truc viril.
Oui.
C'est-à-dire qu'on peut effectivement l'adapter en fonction des personnes.
Et dernier lieu commun, est-ce que le yoga n'est pas chic ? Vous voyez, est-ce qu'il y a des salles de yoga dans des quartiers pauvres ?
Oui, bien sûr. Oui, oui. Je crois qu'il y a beaucoup d'enseignements de yoga qui se font dans tous les lieux, également qui sont désespérés, ou en tout cas qui manquent d'espoir, qui sont des lieux de souffrance. Il n'y a qu'un endroit où il n'y a pas de yoga, ce sont dans les pays où il y a des dictatures. Mais sinon, partout où il y a de la liberté, il y a du yoga et de la souffrance. Et fondamentalement, le yoga est justement une réponse à la souffrance humaine.
Nous le verrons tout à l'heure, justement, comment ça marche, entre guillemets. Puisque nous parlons des lieux de souffrance et du yoga, il y a du yoga à l'hôpital ?
Il y a du yoga à l'hôpital, il y a du yoga dans les prisons, il y a du yoga partout, effectivement, je crois, aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant.
Nous entendrons, puisque vous avez évoqué le yoga dans les prisons, docteur Coudron, nous entendrons tout à l'heure la voix de Michel Vaujour, qui est un grand pratiquant du yoga. Et puis nous entendrons aussi au cours de cette émission qui est consacrée au yoga, mais aussi à la peur, nous entendrons une artiste qui s'appelle Ophélie Gaillard, qui est violoncelliste et qui doit maîtriser le trac et qui pratique le yoga. Nous l'aurons au téléphone, elle nous racontera. Et puis, je ne vais pas tout vous dire parce qu'il y a quelques surprises. Vous avez évoqué un tout petit peu le yoga dans le temps. Nous remonterons le temps et puis nous entendrons un autre artiste qui est mort maintenant, mais qui n'a rien à voir avec Ophélie Gaillard et qui évoque le yoga. Donc, le yoga pour tous, le yoga tout le temps, le yoga qui soigne et en particulier cette émotion qui nous entrave tellement, parce que ça aussi, ça concerne tout le monde, la peur.
D'esprit sur France Inter.
La vie moderne étant ce qu'elle est, on pourrait croire les pauvres citadins voués à une perpétuelle surexcitation nerveuse. Il existe pourtant un remède, vieux du reste comme le monde, capable de sauver de leur insomnie les victimes du siècle de la précipitation. Regardez bien cet homme. Ne croyez pas qu'il marche comme vous et moi. Il rythme sa respiration sur ses pas, il contrôle chacun de ses mouvements, il pratique le Hatha Yoga. Voilà le grand mot lâché. Et nous avons demandé à M. Ferrer de nous en dévoiler les mystères.
Le Hatha Yoga, c'est une forme de yoga qui utilise comme tremplin l'énergie. A signifie, Hatha signifie l'énergie positive. Thatha signifie l'énergie négative.
Voilà qui est clair. Et à partir de là, 800 postures permettent de contrôler et d'éduquer le moindre muscle, le moindre élément du corps humain. Autant de pauses qui sont autant de recettes à chacune des complications, des difficultés de notre vie agitée.
Voilà qui est clair, tu parles. C'était en 1964. Vous nous parlez du yoga de 2016, docteur Lionel Coudron, avec vos deux livres édités chez Odile Jacob, la yoga thérapie et le yoga pour bien vivre ses émotions. Et à la page 24 de yoga thérapie, vous écrivez « Le yoga s'adresse à nos besoins les plus fondamentaux qui n'ont pas changé depuis des milliers d'années ». Et là, il a l'air de dire, ce journaliste, que ça s'adresse à l'homme moderne.
Oui, ça s'adresse à l'homme moderne, mais l'homme est moderne depuis des milliers d'années, avec ses mêmes préoccupations, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va y avoir demain, qu'est-ce qui va se passer. Et puis, on en a parlé tout à l'heure, de ses émotions qui viennent le submerger dans certaines circonstances où il aimerait bien avoir autre chose que cette émotion de peur, de colère, de tristesse. Donc le yoga est un système vieux comme le monde qui s'est créé à partir du moment où les êtres humains se sont rendus compte qu'ils avaient des difficultés pour gérer leur vie au quotidien et qu'ils étaient parfois submergés par des pensées dont ils n'avaient pas envie, des pensées qui venaient dans leur tête alors qu'ils auraient préféré penser à autre chose, des sensations dans leur corps qui étaient pénibles, douloureuses, des oppressions thoraciques, des boules à la gorge, des maux de ventre, et ils se sont dit mais qu'est-ce qui se passe? Et on s'est rendu compte que notre corps parfois réagissait à notre insu, nos pensées réagissait à notre insu. Et ce que dit Monsieur Ferrer, Lucien Ferrer,
qui est évoqué dans cet archive,
oui,
vous connaissez Monsieur
Ferrer? Je ne le connais pas personnellement, mais effectivement, c'est un des grands messieurs du yoga qui a eu de nombreux élèves, disciples, dont j'ai été moi-même l'élève. Donc, je connais bien par le biais de ses élèves Lucien Ferrer. Eh bien, Lucien Ferrer, effectivement, a permis dans ces années 50, 60, de redécouvrir une méthode qui a comme qualité essentielle d'impliquer le corps, d'impliquer la respiration et d'impliquer les pensées. Et l'individu étant indivisé, étant composé de ces différentes dimensions, ça lui permettait de reprendre la main, entre guillemets, sur par exemple ses pensées, ses émotions, en travaillant son corps ou en travaillant sa respiration. Et c'est ça la grande histoire du yoga.
Vous l'avez lâché, hein, le mot respiration. Souvent, on nous dit il ne faut penser, entre guillemets, à rien. Mais comment on chasse les pensées? Avec les pensées? On pense qu'il ne faut penser à rien?
Oui, mais c'est vrai qu'on peut y arriver. Je dois le dire, effectivement, on peut y arriver. Mais cela demande un travail et un entraînement long. Et avant de ne penser à rien, il y a beaucoup d'autres solutions. Lewis Carroll disait d'ailleurs, s'il est impossible de ne penser à rien, alors que je viens de vous dire le contraire, il est toujours possible de penser à autre chose. Donc, on va effectivement s'appliquer à diriger son attention sur autre chose. Et le premier des conseils, qui est d'ailleurs donné dans une des ouvrages de référence du yoga, qui s'appelle les Yoga Sutras, qui a 2000 ans. Le premier des conseils, c'est le premier verset de ce petit ouvrage, c'est « Et maintenant ». Nous allons pratiquer le yoga.
Maintenant.
Voilà. Et on a lâché également le mot, c'est ici, dans ce lieu, et maintenant, dans cet instant présent. Et effectivement, on se rend compte que si l'on arrive à se concentrer sur ce que l'on ressent dans son corps maintenant, eh bien, on n'est plus ni dans le passé, ni dans le futur. Or, nous savons que beaucoup de pensées anxieuses sont la conséquence d'anticipation. On s'inquiète pour ce qui va se produire ou on rumine sur ce qui s'est passé en se disant « mais j'aurais dû faire autrement ». Si l'on est dans l'instant présent et que l'on porte son attention sur ses sensations corporelles, eh bien à ce moment-là, on est dégagé de cette inquiétude, de cette appréhension, de cette peur par ces autres pensées qui viennent nous parasiter.
On a l'impression, Lionel Coudron, que pour que l'avenir se passe le mieux possible, parce que c'est ça la peur, c'est la peur de l'avenir, il faut qu'on s'entraîne. On se dit, plus je répète la scène qui m'inquiète, plus je répète le travail que j'ai à faire, plus je répète l'entretien que je vais avoir, mieux je serai prêt, mieux ça se passera. Alors qu'en fait, vous vous dites, non, lâche.
Alors oui, je dis lâche parce que tout dépend comment vous allez répéter la scène. Ce qui est important, ce n'est pas la scène en elle-même, c'est l'état dans lequel vous êtes, et là on est justement dans l'émission état d'esprit. C'est vraiment l'état d'esprit dans lequel on est. Mais l'état d'esprit s'accompagne, et c'est là où le yoga est utile, d'un état corporel. Je ne suis bien dans ma tête que si mon corps n'est pas angoissé, bloqué, crispé. Si mes muscles sont relâchés, si je sens que ma gorge est dénouée, que je peux respirer, je suis dans un état agréable, positif, d'apaisement. Et à ce moment-là, je peux ancrer cet état à une pensée, une autre pensée, ou à une anticipation qui ne sera pas anxieuse.
Donc en fait, si je prends l'exemple de l'entretien d'embauche, docteur Lionel Coudron, plutôt que d'essayer d'apprendre par cœur toutes les réponses possibles à toutes les questions que je peux imaginer, et que je sois complètement crispée pendant l'entretien, il vaut mieux que je laisse tomber les éventualités.
Ah mais alors là, c'est le meilleur des exemples que vous puissiez donner, parce que on sait que l'entretien d'embauche est déterminé non pas par ce que vous allez dire, mais par votre attitude, par la posture que vous allez prendre. Si vous avez une posture redressée, c'est-à-dire d'ouverture, eh bien, ce qui est extraordinaire, c'est que cette posture d'ouverture et de redressement, dans ce que nous on appelle en yoga, dans la posture asana, va vous donner confiance. Mais le plus intéressant, c'est que l'autre aussi va vous apporter sa confiance. Et on le sait parce que certaines études ont été faites par Amy Cuddy, qui est psychosociologue, et qui a montré, alors que l'on n'écoutait absolument pas ce que disaient les personnes dans l'entretien d'embauche, on leur demandait, d'après vous, quelles sont les personnes qui vont être sélectionnées pour cette embauche? Et c'était toutes les personnes qui, effectivement, corporellement se redressaient et avaient une attitude de confiance. Le message qui est là, c'est que le yoga nous apprend à travailler sur la posture pour générer en nous un état. Et cet état va se traduire par des pensées.
Nous parlons de la peur et du yoga avec vous, docteur Lionel Coudron, ce soir. Il y a quelqu'un que nous entendons de temps en temps sur Radio France, trop rarement malheureusement. Cette fois-là, c'était sur France Culture avec Laure Adler en 2009. Il connaît bien le yoga et ça lui a même permis de sortir dans tous les sens du terme. Il s'agit de Michel Vaujour.
J'ai dû travailler sur moi énormément quand j'ai compris que je pourrais pas m'évader d'où j'étais. J'étais en QHS, je m'étais déjà évadé 3 fois. Et les directeurs de prison voulaient plus de moi, quoi. Ils me mettaient dans un trou. Et donc, il a fallu que je me flagelle moralement, que je m'impose une discipline que vous n'imaginez pas, dans la solitude, le silence, avec les outils du yoga. Voilà. Mais moi, c'était plus qu'une addiction. C'était une vie. J'étais le yoga, vraiment. Ces choses-là qui m'ont construit. Avec que ça. Que ça. Je me nourrissais de ça. Le sens des jours était rempli avec ça. Sinon, le sens des jours-là n'aurait eu aucun sens. Et j'aurais pas pu survivre.
Michel Vaujour, qui a passé 27 ans en prison, dont 17 en cellule d'isolement, qui a écrit « Ma plus belle évasion » et également un film lui est consacré, « Ne me libérez pas, je m'en charge ». Michel Vaujour nous dit que le yoga lui a sauvé la vie, docteur Lionel Coudron. J'ai l'impression que c'est ça qu'on entend, non ?
Effectivement, et ça m'émeut beaucoup d'entendre Michel Vaujour, que je connais effectivement, et qui est toujours très impressionnant parce qu'effectivement, il incarne vraiment le pratiquant du yoga. C'est plus qu'un pratiquant de yoga, c'est vraiment un yogi dans le sens du terme où il a, comme il le dit, il a vraiment vécu le yoga. Et ce que le yoga lui a apporté, c'est ça, c'est sa plus belle évasion, mais dans son ouvrage, sa plus belle évasion, c'est pas s'évader de la prison. Il l'avait fait plusieurs fois et vous vous rappelez sûrement comment sa femme l'avait la première fois.
La deal en hélicoptère.
Exactement, en hélicoptère.
C'est la plus spectaculaire en tout cas.
Oui, la plus spectaculaire.
Mais pas la plus efficace.
Mais ce que le yoga lui a apporté, c'est la capacité à s'évader de la prison de son corps et de son esprit. Car Michel Vaujour était dans des peurs, la peur extrême qui était justement celle de l'emprisonnement. Et c'est grâce à la pratique du yoga qu'il a réussi à se libérer de cette peur. Et à ce moment-là, cette histoire est extraordinaire, puisque l'amour est venu à lui, alors qu'il était en prison, comme vous l'avez rappelé, depuis des dizaines d'années. L'amour est venu à lui et l'a libéré de cette prison. Et par cette démarche sur lui-même, il a réussi à ne plus avoir cette peur phobique de l'emprisonnement qu'il avait, de fil en aiguille, ramener toujours, toujours au cœur de la prison.
En fait, on retrouve ce que vous venez de dire avec Michel Vaujour, on retrouve ce que vous avez dit sur la posture dans l'entretien d'embauche, c'est-à-dire la façon dont mon corps vit entraîne ma vie,
oui.
Entraîne les événements de ma vie. Michel
Vaujour
a reçu l'amour parce que grâce au yoga, son corps avait une posture, mais pas seulement une posture à tenir quelques minutes, avait une posture H24.
Oui, Et effectivement, dans cet ouvrage que je citais tout à l'heure, les Yoga Sutras, il est clairement dit que notre présent est le résultat de notre passé, mais que notre présent sème les graines de notre futur. C'est vraiment déterminant, c'est-à-dire que si maintenant je change quelques petites choses, j'oriente mon futur. Et Michel Vaujour a travaillé ainsi sur lui et a pu transformer son destin, qui était un destin d'enfermement, pour aller vers un destin de libération.
C'était Sushila Raman. Docteur Lionel Coudron, nous parlons avec vous ce soir de peur et de yoga. Vous êtes médecin, vous avez écrit la yoga thérapie. C'est sur ça que vous aimez communiquer, sur le yoga qui soigne en fait.
Bien sûr.
Vous avez également écrit le yoga bien vivre ses émotions. Alors, il y a beaucoup de célébrités, hein, on parlait des Beatles tout à l'heure, qui ont pratiqué le yoga. Et puis, il y a des célébrités où alors on s'attend beaucoup moins à les entendre parler de yoga. J'aimerais vous faire entendre, docteur Lionel Coudron, la voix de Claude François. Nous sommes en 1973.
Le vrai problème, c'est pas tellement de chanter ou de danser, mais c'est de chanter et de danser en même temps. Alors quand on chante, ça essouffle. Quand on danse, ça essouffle. Mais quand on chante et qu'on danse en même temps, ça essouffle. Et d'autre part, on ne peut pas respirer parce que tout est pris là. Alors je ne sais pas trop, comme j'ai une espèce de double colonne d'air. Une qui sert pour les jambes, l'autre qui sert pour la voix. Je ne sais pas comment j'y arrive. J'avoue, je ne me pose pas trop de questions. Je sais par contre que je fais des mouvements de respiration de yoga. Extrêmement durs, extrêmement pénibles.
Qu'est-ce que ça dit aux médecins, cette histoire de double colonne ? De Claude François, 1973.
Ça veut tout simplement dire que, premièrement, le souffle est essentiel, fondamental, et on entend très clairement qu'il nous explique qu'il s'entraîne à respirer. Et qu'effectivement, la pratique du yoga nous amène à acquérir un certain nombre de mécanismes qui sont pas nécessairement naturels au départ. C'est pourquoi il dit que c'est difficile, c'est pénible. En fait, non, c'est pas aussi pénible et difficile qu'il semble le dire. Mais ça nécessite un entraînement. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez déclencher une respiration qui va permettre effectivement d'alimenter l'ensemble de l'organisme, du corps, et effectivement de lui permettre d'avoir cette hyperactivité qu'on lui connaissait.
Vous avez dit que ce n'était pas aussi pénible qu'il le dit. Michel Vaujour a dit aussi que c'était quand même une discipline. Le yoga, oui. Alors c'est dur ou c'est pas dur?
Alors c'est une discipline, c'est clair. Ça nécessite un entraînement régulier, c'est clair. On en a les résultats, effectivement, liés à notre investissement, mais c'est pareil c'est si tout, je fais du piano, si je fais du violoncelle. Ça va être dépendant de mon temps de pratique, c'est clair et net. En revanche, si ça peut parfois être... ça peut nécessiter un effort, cet effort doit toujours être fait dans un sens agréable et positif. C'est-à-dire cet effort doit amener une sensation de plaisir, une sensation de plénitude et un sentiment de bénéfice immédiat. Donc oui, il y a un effort, mais douloureux, non. Certainement pas. Le premier exercice que l'on nous fait faire en yoga et que l'on nous apprend à faire, c'est un travail d'étirement, tout simplement comme lorsqu'on s'étire au saut du lit.
Comme un chat.
Exactement. Je veux dire, à partir du moment où on a compris comment le chat procède, comment le chien qui s'étire, comment tous les animaux, comment ils font pour s'étirer, ce qu'ils en ressentent, on a compris le yoga. Donc on va fournir un effort, mais un effort agréable, qui va s'ancrer dans notre corps et qui va lui donner justement cette dynamique positive.
C'est vrai, docteur Lionel Coudron, que quand on voit un chat ou un chien, je ne vois pas les animaux sauvages, en tout cas pas au quotidien, ils ne passent jamais de la position couchée à la position debout sans s'étirer. Dès qu'ils se lèvent, ils s'étirent tout le temps en fait.
Un animal s'étire une quinzaine de fois par jour. À peu près toutes les heures et demie, il va s'étirer. Et nous ne le faisons pas parce que nous avons perdu cet instinct, je dirais, et nous sommes obligés de ramener des exercices comme le yoga. Mais si l'on veut justement digérer nos émotions, eh bien nous allons nous étirer. Ça, cet exercice s'appelle la pendiculation, qui est insuffisamment connue.
La pendiculation, ça veut dire qu'il faut se pendre, si on peut ?
Non, ça veut dire qu'il faut s'étirer. De la même façon que le fait le chien, le chat, mais tous les autres animaux, vous allez vous étirer. Alors, vous avez d'autres techniques qu'utilisent les animaux pour pouvoir gérer leurs émotions. C'est s'ébrouer, par exemple. C'est également courir. Cette sensation de blocage dans le corps, parce que la peur, on en parle encore tout à l'heure, et c'est vraiment le thème de l'émission, la peur s'inscrit dans le corps. Et elle s'inscrit comment ? Elle s'inscrit sous forme de tension, de crispation, de blocage, d'enfermement, où l'on va
se replier. Oui, on a l'impression que son plexus solaire se ratatine.
Exactement. Ça nous ramasse sur nous-mêmes, cette peur. Eh bien, cette sensation-là, si on veut justement, je dirais, la digérer, la faire se transformer en une sensation d'ouverture, de plénitude, eh bien, il va falloir qu'on la piège par une contraction intense et qu'on étire cette contraction pour pouvoir la libérer. Donc, c'est typiquement un exercice de yoga.
Donc, ce mouvement-là, la pendiculation, c'est tirer et respirer.
Mais la respiration en elle-même est bien évidemment la cheville ouvrière de l'anxiété, de la peur, mais aussi de la capacité à gérer l'anxiété et la peur.
Mécaniquement.
La respiration, c'est la technique la plus utilisée au monde pour se débarrasser du trac, de l'anxiété, de la peur, de l'angoisse. C'est vraiment gérer la respiration qui nous permet de gérer notre anxiété et nos peurs.
Pour se débarrasser du trac, justement, nous allons, vous avez de l'intuition, docteur Lionel Coudron, parce que nous allons en parler dans pas longtemps du trac. Nous allons appeler Ophélie Gaillard, qui est violoncelliste, qui est soliste et qui, justement, est très exposée au trac. Nous allons voir avec elle comment elle s'y prend, peut-être avec le yoga, justement, aussi.
Tu danses comme le soleil. Tu tu regardes l'horizon, danse comme ça, c'est nickel.
C'était Aller vers le soleil, Sébastien Tellier.
France Inter. Noël Bréham. État d'esprit.
Nous parlons de la peur, cette peur qui nous gêne tellement, de la peur et du yoga, puisque vous avez écrit la yoga thérapie, docteur Lionel Coudron, édité chez Odile Jacob. Alors nous avons voulu nous entretenir avec quelqu'un qui a un métier qui fait peur. Moi je pensais à un pompier. Ou plusieurs, on est dimanche. Et puis après, on s'est dit que finalement, la peur la plus forte n'était pas forcément une peur liée à un danger physique. Et nous avons pensé au trac. Le trac qui paralyse, le trac qui nous fait dire n'importe quoi ou rien du tout. Et nous avons demandé à notre ami Nicolas Lafitte de France Musique de nous présenter une soliste de musique classique. Parce qu'en musique classique, le public est dur, cruel même parfois, je trouve. Alors merci d'avoir répondu à notre appel, Ophélie Gaillard.
Merci, j'espère que je vais pas être terrorisée.
Par le trac? C'est tellement plus facile que ce que vous faites. Vous êtes violoncelliste, vous avez été élue aux Victoires de la Musique, vous êtes lauréate du concours Bach de Leipzig, vous jouez avec des orchestres prestigieux, vous avez enregistré beaucoup d'œuvres, dont une intégrale des suites de Bach qui a été ovationnée par la presse, qui est cruelle, elle aussi d'ailleurs, comme le public de musique classique. Vous enseignez, vous avez été nommée professeure à la Haute École de Musique de Genève et... Vous êtes donc sujette au trac? Oui, un peu, pas du tout? Beaucoup?
Ah, bien sûr, toujours. En général, c'est assez mauvais signe, un artiste qui n'a pas le trac du tout. Moi, je m'inquiète plus. Non, c'est une émotion et une sensation, parce qu'elle a des effets physiques, cette émotion, parfois gênante, qui nous est familière, parce que je crois qu'elle ne disparaît pas, et c'est pas parce qu'on monte sur scène 300 ou 400 fois qu'elle disparaît. Par contre, c'est une sorte de stress qu'on apprivoise, qu'on apprend à connaître.
Si vous voulez bien, nous allons vous écouter quelques instants, évidemment trop court, avant d'évoquer le yoga, Ophélie Gaillard. Ophélie Gaillard, je vais vous demander, comme on dit chez nous, de désannoncer. Vous avez reconnu ?
Oui, c'est une symphonie de Carl-Philipp Emanuel Bach qu'on a enregistrée avec mon ensemble Pulcinella, en do majeur, qui est alors peut-être pas un exemple d'équanimité parfaite, pour le coup. Et en plus, l'énergie est là, qui se déploie dans cette musique. Et ben, ça fait partie justement de ce qu'on cherche à restituer, c'est-à-dire c'est une espèce de vitalité débordante dans l'écriture, et quand les sons jaillissent des instruments et s'emparent de nous, comme en plus c'est une énergie qui est collective, c'est assez tellurique.
Vous n'êtes pas seule effectivement dans cet extrait, on avait hésité, on voulait vous entendre toute seule, et puis en même temps je trouve que jouer ensemble c'est tellement difficile, et vous avez parlé d'énergie. Alors vous pratiquez le yoga, Ophélie Gaillard ?
Oui, quasi quotidiennement, en amateur, hein, mais oui, c'est devenu quelque chose d'assez fondamental dans ma vie, un peu partout où que je sois. C'est l'avantage énorme de cette pratique, c'est que où qu'on soit dans n'importe quelle chambre d'hôtel ou n'importe quel endroit du monde, on peut trouver un moment à soi, comme ça, d'intériorité, qui soit court ou long, mais qui est de toute façon très intense et assez important pour mon équilibre de vie, en tout cas. On est dans un métier où on est relativement surexposé, tout le temps sollicité, on doit donner beaucoup de soi-même. En même temps, on ne peut donner bien, je crois, que quand on a un monde intérieur riche, et ça demande aussi du temps et de l'attention de nourrir ce monde intérieur. Donc je crois que c'est un double mouvement comme ça, et le yoga fait partie de ces moments de la journée un peu dans l'ombre qui sont très nécessaires quand par ailleurs on est beaucoup dans la lumière de la scène. Et puis je pense aussi par rapport à l'enseignement, que c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre du don et et du partage, et c'est important d'avoir des moments où on peut se recentrer d'une certaine façon et avoir une pleine conscience de soi-même pour offrir mieux aux autres, donc aussi dans la vie privée, j'imagine.
Mmh. Yehudi Menuhin n'était, paraît-il, un grand yogi. Vous avez dit être soi-même, Ophélie Gaillard. Il y a un chapitre de votre livre, docteur Lionel Coudron, qui s'appelle être soi-même, votre livre édité chez Odile Jacob, le yoga thérapie. Comme Ophélie, être soi-même, le yoga.
Oui, parce que à partir du moment où on calme cette agitation du mental, que l'on calme cette agitation des émotions, qu'on est effectivement soi-même et que l'on va vers le centre. Mais je voudrais rajouter quelque chose, parce que là on vient de parler de la dimension évidemment psychologique et émotionnelle, mais ce dont on ne se rend pas compte, c'est que jouer d'un instrument, c'est éminemment physique, et jouer du violoncelle, c'est une implication corporelle totale, et on peut effectivement aussi récupérer de cette pratique de l'instrument avec la pratique du yoga qui va suivre. On peut aussi se préparer, parce que un instrument entraîne, et je pense et j'espère qu'Ophélie Gaillard ne me contredira pas et pourra peut-être justement au contraire compléter, je serais très intéressé, un instrument nécessite de la part du corps un certain nombre de mouvements qui sont répétés et qui peuvent être source de pathologie. Donc on est tout à fait, au contraire, on ressent un bénéfice de la pratique du yoga qui va nous permettre justement d'éliminer ces tensions, ces crispations, auxquelles s'ajoutent bien sûr aussi des crispations, des tensions psychologiques. Et si on peut se libérer de toutes ces tensions, eh bien on va être effectivement soi-même. On ne sera pas perturbé par des mécanismes qui font qu'on n'est pas nous-mêmes, qu'on est en dehors de nous-mêmes.
Ophélie Gaillard ?
Oui, évidemment, c'est très intéressant. Et c'est toujours comme par hasard, souvent, de l'altérité que tout d'un coup, on entend parler de son propre corps. Et c'est vrai que c'est la grande force de cette pratique du yoga. C'est pour ça que moi, j'incite fortement mes étudiants, et même je donne pas mal de cours collectifs pour les inciter à ça très directement. C'est-à-dire qu'en fait, on croit qu'il y a un moment de relaxation comme ça, et de détente, et de façon de s'échapper de soi-même. En fait, c'est beaucoup plus radicalement une façon d'être présent à soi-même et notamment évidemment au corps et aux sensations. Et c'est vrai que dans une pratique artistique, quelle qu'elle soit, on a une exigence musicale telle que parfois on en vient à oublier son propre corps. Or, c'est l'instrument essentiel pour avoir un beau son, pour pouvoir porter une émotion musicale par le son, puisque c'est là qu'est le cœur de l'émotion, c'est par le corps que ça passe. Et c'est vrai qu'on le malmène très souvent. Et moi, j'ai beaucoup regretté dans ma jeunesse d'avoir entendu parler de tout ça beaucoup trop tard. Et il n'est jamais trop tôt pour commencer, à, comme dit le docteur, à non seulement réparer, mais même préparer. J'aime bien quand il parle de préparation parce que finalement, cette haute technicité qu'on nous demande à chaque instant, quand on passe des heures et des heures par jour sur un instrument, ça provoque évidemment des pathologies posturales. Et il est pas rare, enfin c'est même plutôt l'exception d'avoir un artiste ou un musicien qui ne va pas très régulièrement chez le kiné ou chez l'ostéo, qui se plaint de mal de dos, etc. Et moi, ça m'a été mon cas pendant longtemps. Et je dois dire que depuis que j'ai cette pratique quasi quotidienne, plus besoin de couvrir la cabinet. Donc en plus, c'est très économique.
Je me vois sourire, docteur Lionel Coudron.
Oui. Oui, parce que la difficulté dans quoi que l'on fasse, c'est de ne pas faire les mouvements parasites, de ne pas en rajouter. Et je crois que pour un artiste, ce qui est le plus difficile, c'est d'être soi, c'est-à-dire justement libéré de toutes ces émotions parasites pour ne pouvoir être que le reflet de l'émotion qu'on veut transcrire. Et cette émotion, pour qu'elle puisse se libérer dans le corps, il faut qu'on soit apte à la restituer. Et il ne faut pas que le corps soit parasité par autre chose. La peur, entre autres. Alors, on a parlé du trac qui, effectivement, met en tension, permet de mobiliser l'énergie, donne cette énergie d'excitation qui va nous permettre de libérer notre potentiel. Mais après, il faut que tout soit fluide. Il faut que ce soit comme une voile qui va flotter au vent et qui va pouvoir vibrer à la bonne harmonique de l'émotion qu'on veut restituer.
Le vent permet de faire avancer et pas de renverser,
oui,
ou de faire couler.
Et l'artiste, que ce soit un danseur, que ce soit un musicien ou que ce soit un chanteur, il faut qu'il soit juste un canal. Il faut donc, pour être un canal, qu'il soit lui-même, pour être transparent, pour laisser passer l'émotion qu'il veut restituer.
Je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que cette histoire de vent et de voile me fait aussi quand même penser à un aspect fondamental du yoga qui est le pranayama et toute la pratique, le travail sur la respiration et le souffle. Et effectivement, le souffle, c'est l'énergie vitale qu'on doit fluidifier, libérer de façon à ce que à trouver cette aisance et cette liberté qui soit toute dédiée à l'art. Et ce souffle-là, je pense que ça fait partie des apports essentiels du yoga. Alors, en toute amatrice que je suis, je fais aussi pas mal de travail avec mes étudiants et évidemment moi-même avant chaque concert sur ce travail de la respiration qui passe d'abord par simplement une prise de conscience, hein, un arrêt progressif de, comme dit Christophe André, du vagabondage des pensées et puis simplement une concentration sur le souffle et la respiration, chose que les chanteurs font de façon traditionnelle et classique beaucoup plus souvent, ou aussi les instrumentistes avant ont une pratique en général un peu plus élaborée que la nôtre de ce point de vue-là, mais en fait chaque instrumentiste, qu'il soit à cordes ou à percussion ou avant, a besoin de cette connaissance du souffle et de cette cette maîtrise aussi de la respiration.
Merci Ophélie Gaillard, nous allons vous libérer. Nous vous retrouverons le dimanche 18 septembre à 4h30 l'après-midi, heureusement pour vous, à l'Hôtel de l'Industrie, c'est à Paris, en face de l'église Saint-Germain. Vous serez également le 13 octobre à la cathédrale Notre-Dame des Invalides et toutes les autres dates sont sur le site d'État d'Esprit.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bonne soirée.
Au revoir.
Mes dunes ondulent, fines particules, prêtes à s'éparpiller dans le vent, le mouvement des marées. Sur cette étroite bande de vie, plane un silence troublant, ce monde en réduction disparaîtra bientôt. Au hasard du courant, je vais devoir partir. Sur la ligne d'horizon glisse les cargos, tout droit vers l'Angleterre. Je veux voir ce vaisseau me poser sur la mer. Chardons immortels, chair haute de la dune, il souffle un vent mauvais, je n'entends plus le murmure dans le bruit des chantiers, l'espace n'a plus d'aspérité, pourquoi encore rester? Au hasard des courants, je vais devoir partir. Sur la ligne d'horizon glisse le cargo, tout droit vers
Plage, Françoise Breut sur France Inter. état d'esprit, nous parlons de la peur et du yoga avec vous ce soir, docteur Lionel Coudron, auteur de la yoga-thérapie chez Odile Jacob. Elle l'a dit, Ophélie Gaillard, évidemment, elle est violoncelliste, elle a parlé du souffle. Ce n'est que ça, le yoga, enfin pas que, c'est idiot de dire que quelque chose, mais...
Non, mais c'est aussi beaucoup, cela. Ça. Oui, oui, c'est beaucoup cela. La respiration est au cœur de tous les processus automatiques et de tous les processus émotionnels, dont la peur. Lorsque vous avez peur, eh bien, cette respiration va se bloquer. Elle va se suspendre, voire même elle peut aussi s'accélérer dans un certain nombre de circonstances. L'objectif et la façon de faire du yoga, ça va être de l'apprivoiser, cette respiration. Donc on va se concentrer sur cette respiration, on va l'observer dans un premier temps, on va l'accueillir et on va l'orienter, on va l'allonger, on va la moduler. Et l'art du yoga, c'est justement d'avoir exploré la respiration dans toutes ses dimensions. Donc on va apprendre à inspirer longuement, à retenir le souffle, à expirer rapidement, on va apprendre à faire des respirations qui s'enchaînent, on va apprendre à respirer avec le ventre, avec la poitrine.
Avec le ventre ?
Exactement, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est la respiration diaphragmatique de base qui est la respiration la plus relaxante. Si j'inspire et que mon diaphragme s'abaisse, le ventre va effectivement se soulever.
D'accord, mais l'air ne va pas dans le ventre.
Non.
L'air va dans les poumons qui écrasent.
Exactement. Mais on va appeler ça la respiration abdominale parce que lorsqu'on va être allongé, on va voir que le ventre se soulève à l'inspire. Et ça baisse à l'expire. Alors ça, c'est très facile à enseigner aux enfants, aux adultes. Et ça leur permet effectivement de reprendre tout de suite les rênes de leur respiration et de transformer un processus automatique en un processus volontaire qui va ramener de la détente.
Et ça empêche de se laisser embarquer par la peur.
Exactement. Et je fais juste une parenthèse pour rappeler que l'être humain est le seul animal capable de contrôler sa respiration volontairement. Parce que c'est un processus normalement automatique, de la même façon que les battements du cœur, de la même façon que la digestion. C'est commandé par des mécanismes automatiques, alors qu'on peut prendre la main justement sur ces mécanismes.
On peut même s'arrêter de respirer.
Exactement, et c'est aussi un travail que l'on va faire, c'est de suspendre le souffle. Ça fait partie de ce contrôle. Alors on peut et on doit maîtriser sa respiration, et c'est le béaba de la gestion de l'anxiété. Parce que dans l'anxiété, ou quelle que soit sa forme, que ce soit l'attaque de panique, que ce soit l'anxiété sociale, ou le trac, que ce soit l'anxiété généralisée, que ce soit l'état de stress post-traumatique, que ce soit la phobie, eh bien dans toutes ces formes d'anxiété, la respiration est perturbée. Dans l'attaque de panique, par exemple, il va y avoir une hyperventilation. Donc on va respirer trop vite, et du coup ça va modifier la chimie du sang, et ça va entraîner des crispations, des contractures, ça va aggraver l'anxiété.
C'est pour ça qu'on pense que c'est une crise cardiaque, souvent.
Souvent, on peut croire, effectivement, dans l'attaque de panique, qu'on a des douleurs au niveau de la poitrine et que c'est une crise cardiaque. Mais ça va s'accompagner d'autres pensées angoissantes, comme « je vais devenir fou » ou « comme je vais mourir ». L'attaque de panique, c'est vraiment être très, très, très mal. C'est vraiment, on est débordé totalement.
Donc ça, on peut... En tout cas, se sortir de ce pétrin-là, en maîtrisant son souffle.
Absolument, et je dirais même, ça c'est très important de le comprendre, de le savoir, c'est que l'anxiété se gère, l'attaque de panique s'apprivoise, et on peut arriver progressivement à s'en libérer avec des exercices qui nous impliquent corps et âme, avec des exercices qui nous permettent de reprendre le dessus avec le corps, la respiration et les images, les pensées, les visualisations qu'on peut faire.
C'est agréable de se quitter sur cette bonne nouvelle. Hein. L'attaque de panique, c'est un livre également chez Odile Jacob. Je cite les deux vôtres, la yoga-thérapie, docteur Lionel Coudron, et également le yoga, bien vivre ses émotions. Ces deux livres sont chez Odile Jacob. Nous allons nous y mettre. C'est une phrase que vous avez citée, je crois, dans un de vos ouvrages. Pour changer le monde, il faut d'abord se changer soi-même, cette phrase de Gandhi. Alors nous pouvons nous y mettre dès maintenant. Un DVD qui vient de sortir, Yogananda. Yogananda, vous connaissez, j'imagine, qui a fait connaître le yoga dans les années 20. Et puis un excellent DVD aussi, un documentaire, Le souffle des dieux. C'est sorti en 2014, il est un peu plus ancien. Et on nous découvre la vie et les enseignements de Krishnamacharya. Je le dis.
Krishnamacharya.
Je vous remercie, ça c'est gentil. Voilà, vous avez compris en tout cas de quoi je voulais parler. Docteur Lionel Coudron, merci.
Merci beaucoup.
Et bonne soirée.
Merci bien.
Fanny Leroy a préparé cette émission. Coy Nguyen l'a réalisée, Muriel Pérez l'a programmée, Julien Michel l'a mixée. Après les informations, vous retrouverez Brigitte Patient pour Regardez voir, consacrée ce soir à la jeune photographe finlandaise Elina Broterus, et puis à Gilles Mora, qui est un amoureux des États-Unis. Vous trouverez sur le site d'État d'Esprit tout ce que je n'ai pas dit, et je peux vous dire que ça fait beaucoup.